toutes et tous de la musique dans la tête. Parce que ces musiques ont bercé des moments de notre existence. Parce que parfois, ces musiques ont changé nos vies. Parce que ces musiques étaient présentes sur des disques. Parce que ces disques ont une histoire. Un disque, une histoire, c'est votre rendez-vous musical du jeudi soir sur Radio Terre de Mix, de 19h à 20h. Parce que chaque disque a une histoire, et ces histoires font les disques. Un disque, une histoire, aujourd'hui, Rolling Stone, Let It Bleed. Women in a deep blue
sea. I will have all you good looking. Bonjour, c'est Max. Bienvenue à l'émission Un disque, une histoire.
Bienvenue à tous, bienvenue Max. Alors bonjour, aujourd'hui Rolling Stones, Let It Bleed, et on entend derrière Muddy Water. Peut-être que ça a un rapport avec l'histoire des Rolling Stones.
Eh oui, ça a un rapport puisque cette chanson s'appelle Rolling Stone, chanson magnifique de Muddy Waters de 1950. C'est du blues de Chicago, vous entendez? Vas-y, monte un peu le son, qu'on entende ça. Écoutez cette voix. And I sit down, oh, on her stair. She said, come on in now, buddy, you know my. Les Rolling Stones sont un groupe de blues à l'origine, un groupe de blues. D'ailleurs, la rencontre qui va faire les Rolling Stones, c'est la rencontre entre Mick Jagger et Keith Richards. Ils habitent le même quartier, ils sont à la même école maternelle, vous voyez. Enfant, il y a des photos d'eux ensemble dans un bac à sable où ils sont habillés en cow-boy. Et puis ils se perdent de vue jusqu'à l'adolescence, où là, à 18 ans un jour, Keith Richards voit Mick Jagger dans le train avec un disque de Muddy Waters.
Alors, il me semble qu'à cette époque, avoir un disque de Muddy Waters, c'est pas franchement évident.
Ah non, c'est pas évident. Alors, lorsque vous faites partie des bluesmen à Londres ou en Angleterre, vous faites partie d'une caste, une secte. Autant le rock'n'roll est populaire, autant le blues est très peu connu. Les disques de blues sont arrivés par les soldats américains qui ont été, durant toute la guerre, en base sur l'île, sur l'ensemble du Royaume-Uni. C'est eux qui ont amené ces musiques-là, on ne les connaît pas. Et donc, il y a quelques initiés qui connaissent ces musiques. Et ce qu'il y a en commun entre Mick Jagger et Keith Richards, c'est que les deux, pendant leur adolescence, ils vont découvrir ces musiques et ils vont être complètement pris par ces musiques. Donc, la rencontre, elle se fait avec Mick Jagger qui a un disque de Muddy Waters et Keith Richards qui voit ça, qui dit « Toi aussi, tu en es ».
Ça a été leur point de ralliement, finalement. Ils se sont retrouvés comme ça, tiens. On se retrouve, et toi t'écoutes Muddy Waters, mais tu vas être mon pote. Et donc ils ont décidé à ce moment-là de dire on se fait un groupe. Comment ça s'est passé un peu pour aller plus loin un petit peu?
Alors, à cette époque, Keith Richards, il a déjà, comment dire, avec son oncle, avec son grand-père Gus lui a acheté une guitare. Et il s'est déjà mis à gratter la guitare tout seul. Keith Richards, c'est un fils unique. Il a un père ouvrier électricien. Et une mère au foyer qui l'adore. Keith Richards a été, la force de Keith Richards, c'est l'amour de sa mère. Vraiment, ouais. Il en parle, il en dit des choses très très belles. Voilà, donc il a laissé faire en gros tout ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait c'était faire de la guitare, et sa mère lui a laissé faire la guitare. Donc à cet âge-là, Keith Richards il fait que de la guitare, et il est aussi en art school. Lui aussi, les fameuses art schools dont j'ai parlé plusieurs fois sur cette antenne, hein, ces écoles dans lesquelles on met les cancres, les gens qui sont en échec scolaire, au Royaume-Uni à cette époque, on les met en école d'art. Donc, mine de rien, lorsqu'il y va, parce qu'il n'y va pas souvent, il s'ouvre aux autres musiques et donc il approfondit ce qu'il connaît en blues. Vous voyez, je veux dire, voilà. il a approfondi des choses-là. Mick Jagger, lui, ça n'a rien à voir. Lui, il vient plutôt de la classe moyenne un peu plus aisée. Son père est professeur de gymnastique. Donc, Mick Jagger, très jeune, va faire du sport. Il va être très, très sportif. Il est d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est un homme très sportif. Et durant les années 50, son père va avoir une émission de sport à la télé. Vous voyez, un peu du style
Véronique et Davina.
Véronique et Davina de l'époque. Voilà, exactement. Ouais. C'est Véronique. Et donc Mick Jagger, à cette époque, il a 13 ou 14 ans et donc il fait les exercices que lui dit de faire son père. Voilà. Lorsqu'il le rencontre, eh bien, Mick Jagger est rentré à l'école d'économie à Londres. Voilà. Donc il est là pour faire des études d'économie, mais a priori, il a une passion en lui qui est la passion du blues.
Alors, le blues a été donc quelque chose de très important et c'est pas pour rien que tu as choisi l'album Let It Bleed, si j'en crois un petit peu, on va dire, mes oreilles fines. L'idée, c'est de dire, voilà, autant les Beatles sont un groupe de rock, on est d'accord, autant les Rolling Stones sont plus, finalement, avec leurs racines blues, un groupe influencé par le blues. Et pour toi, c'était important de marquer cette chose-là.
Oui, parce qu'il y a deux écoles. Il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui ont été influencés par le rock and roll américain des années 50, comme les Beatles, les Who, et ceux qui ont été influencés par le blues, voilà. Par exemple, les Rolling Stones. Voilà. Les Rolling Stones, c'est ou Eric Clapton ou les Yardbirds. Enfin, il y en a toute une série comme ça. Ouais. Led Zeppelin même. Hein.
Oui.
Ils ont tous été influencés par le blues. Hein. Et voilà. Donc, j'ai voulu vous faire découvrir Let It Bleed parce que Let It Bleed est un retour au blues. À la fin des années 60, donc on va en fait expliquer un peu le parcours des Rolling Stones jusqu'à ce retour au blues. Donc, si on vous a fait écouter la chanson Rolling Stone de Muddy Waters, c'est parce que c'est sur Muddy Waters que se fait la rencontre entre Mick Jagger et Keith Richards, mais très vite, donc, Mick Jagger et Keith Richards vont aller arpenter ensemble le même club dans lequel on joue du blues. C'est un club qui appartient à un monsieur qui s'appelle Alexis Corner, qui est un grand musicien en Angleterre, qui est un fan absolu de musique blues, qui va faire découvrir le blues à quantité de personnes à Londres et qui va accueillir en permanence des musiciens qui vont venir faire le bœuf tous les soirs. Bon. Et donc, il leur permet de faire le bœuf, donc comme on fait le bœuf, c'est-à-dire qu'il y a une structure musicale avec des musiciens et d'autres montent sur scène. Et c'est comme ça que Mick Jagger et Keith Richards vont en fait oser monter sur scène, l'un pour chanter et jouer l'harmonica et l'autre pour jouer à la guitare. Et un soir comme ça, ils découvrent un autre musicien qui a leur âge, enfin qui a un an de plus qu'eux, mais qui à cet âge-là est déjà terriblement mature par rapport à eux. Il s'appelle Brian Jones. Lui, c'est un musicien accompli, c'est quelqu'un qui sait jouer du piano, du saxophone, de l'harmonica et de la guitare. Et on verra à quel point il va apprendre d'autres instruments après. Il a 19 ans, il est déjà marié, lui. Il est déjà marié, il a déjà eu un enfant, il est déjà divorcé. Bon.
Ah, ça calme, hein, à
voilà,
19 ans.
À 19 ans, donc lui, c'est un vrai de vrai et il joue du bottleneck. Voyez,
et à l'époque, c'était pas trop utilisé, on va dire.
Ah ben, à Londres, non, on connaît pas. Aux États-Unis, on connaît. Dans le Mississippi, mais là, en fait, on connaît pas. Enfin, je veux dire.
C'est une sonorité très bizarre et très particulière, en tout cas pour ceux qui sont pas habitués. Et la technicité, on va dire, guitaristique, il faut quand même connaître. Et pour le coup, le blues, si on connaît pas le blues, le bottleneck, on connaît pas.
Ben voilà. Et donc, ils connaissaient pas. Donc, le bottleneck, comme le dit son nom en anglais, c'est le culot d'une bouteille. Au départ, qu'on enfile dans un doigt et que on fait glisser sur les cordes. Donc ensuite on va en faire un objet plus en fait métallique, mais au départ c'est vraiment le culot d'une bouteille.
Une bouteille, c'est
bottleneck, hein, voilà. Et bien lui il joue déjà du bottleneck. Donc ben, tous les trois ils se mettent à vivre ensemble dans le même appartement en espérant un jour faire quelque chose. Et un jour le téléphone sonne et on leur dit voilà, est-ce que vous pouvez jouer, notre groupe est absent. Alors il y a Brian Jones au téléphone qui dit bah oui. Et le monsieur ou la dame qui est au bout du fil leur dit « Vous vous appelez comment ?» Et à ce moment-là passe la chanson « Rolling Stone » de Muddy Waters. Et il a l'idée de dire « Les Rolling Stones ».
Eh bien, il a eu la bonne idée parce que le nom, quand même...
C'est une marque déposée. Hein.
Ah ben ça, on peut faire confiance à Mick Jagger et ses cours d'économie, ça a dû l'aider quand même.
Voilà, donc... très vite ils se mettent à jouer tous les soirs à Londres, donc on vient les voir jouer, notamment les Beatles vont venir les voir jouer, Eric Clapton va venir les voir jouer. Bon. Donc ils sont six au départ, hein. Donc il y a Brian Jones et Keith Richards à la guitare, qui font comme on appelle ça du tricot à l'ancienne, c'est-à-dire que personne ne joue lead, personne ne joue rythmique, les deux
s'entremêlent, se mélangent.
Mick Jagger joue de l'harmonica et chante. ils arrivent à avoir un bassiste à un moment donné qui s'appelle Bill Wyman, qui est embauché parce qu'il a un gros ampli. Voilà, c'est pour ça qu'on le prend.
Ah, d'accord. Il a un gros ampli. Pourquoi pas.
Et un batteur de jazz, Charlie Watts. Là, très grand batteur. J'essaierai de te faire entendre à quel point c'est un grand batteur, puisque tu m'as dit que tu...
Oui, tout à fait. Oui, j'ai quelques réserves. J'ai mis quelques réserves. Mais on en discutera.
Et à l'époque, il y a un pianiste avec eux qui s'appelle Ian Stewart, qui est un très bon pianiste de blues et de boogie. Malheureusement, qui va être viré par le manager qui arrive. Il va être viré, il va rester le sixième Rolling Stone, c'est-à-dire que ça va être leur régisseur principal, voilà, qui... D'accord. va les suivre partout. Donc, ils sont ensemble et arrive un manager, à l'époque, au début des années 60, né un nouveau métier, c'est le métier de manager, d'orchestre de rock, de groupe de rock. Il a 19 ans, la personne qui va les prendre aussi en management. Il vient du management des Beatles et il s'appelle Andrew Loog Oldham.
D'accord.
Voilà. C'est lui qui va avoir l'idée de faire l'image Rolling Stone contre l'image Beatles.
Mais justement, excuse-moi de te couper, mais là, on n'est pas du tout, à contrario des Beatles, qui sont passés par une phase du skiffle, tu sais, les groupes, comme tu m'avais appris, autour des groupes low cost. Là, ils jouent en mode buff, et c'est comme ça qu'ils sont un peu repérés, mais ils n'étaient pas considérés comme un groupe de, entre guillemets, de blues low cost à l'époque. C'était déjà respecté, on va dire.
C'est un groupe de blues à part entière, parce qu'il y a très peu de groupes de blues en Angleterre, voilà. À cette époque-là, je te dis bien, c'est vraiment une société secrète, les gens qui jouent du blues. Ils se retrouvent entre eux. Mmh. C'est un milieu. Ils apprécient cette musique-là. D'ailleurs, aux États-Unis, à cette époque-là, c'est une musique noire. Les blancs n'écoutent pas le blues. Mmh. C'est une musique noire. Les musiciens de blues, les plus grands musiciens de blues, Muddy Waters, John Lee Hooker, Buddy Guy, etc. C'est des gens qui sont très pauvres à cette époque-là. Mmh. Les Rolling Stones vont raconter que lorsqu'ils vont aller enregistrer pour la première fois aux États-Unis, en 64, dans le studio, il y a un mec noir en train de peindre le plafond. Mais c'est qui ce monsieur ? C'est Muddy Waters.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et c'est grâce aux Rolling Stones, c'est-à-dire que tous les grands bluesmen américains les vénèrent, parce que c'est eux qui vont les relancer. C'est eux qui vont relancer leur carrière. C'est eux qui vont populariser le blues noir en Europe. Et parce qu'ils vont le populariser, ils vont faire redécouvrir leur musique. Voilà. Donc, avec Andrew Loog Oldham, il leur fait une image de mauvais garçon contre les Beatles, qui sont les gentils garçons. Les Rolling Stones sont les méchants garçons. Donc, il invente un slogan: laisseriez-vous votre fille sortir avec un Rolling Stone? Mmh. Et dans leur premier disque, ce qui est un disque de reprise,
ouais,
il dit: les Rolling Stones ne sont pas un groupe, ils sont un mode de vie. Donc on va vous faire écouter le premier morceau de leur premier disque, Not Fade Away, de Pettit et Hardin, un morceau très connu, revisité par les Rolling Stones. Écoutez ça. On est replongé dans l'époque, ce qui est extraordinaire. Hein. J'ai vu le studio où ils ont enregistré ça. Je l'ai vu en photo. Je peux aller voir. C'est grand, je vous jure, comme une salle de bain. Mais vraiment.
On n'est pas à Bay Road, quoi.
Bah, ouais, on n'est pas à Bay Road du tout. Hein. Ouais. Et vous sentez que le son, il dégueule partout.
Oui, c'est vrai.
Hein,
c'est
le
vrai.
Son de la batterie, il passe dans l'ampli de basse. Enfin, ouais, je veux dire,
ça déborde.
Ça déborde de partout. Génial. Ils font un son sale.
Oui. Voilà. Le son est sale. Ça va le en même temps avec l'image, c'est pas con, c'est pas bête.
Voilà,
pas
le bien. Son est sale, il est garage. Et je le dis juste, voilà, c'est le premier. Lorsque je vois le studio qu'on a à Limours, par exemple, c'est super high-tech hein, par rapport au premier disque des Stones.
Voilà, on va dire que c'est pas la même époque. Justement, donc les Rolling Stones, donc on va dire, ont eu une grosse partie de travail qui a été basée en particulier, on va dire, sur la reprise jusqu'à un certain moment.
Alors, jusqu'à un certain moment, parce qu'à un moment donné, ce qui va leur faire très très peur, ce qui va faire très peur aux managers, c'est qu'en 63, à un moment donné, ils n'ont même plus de reprise. Enfin, je veux dire.
Ils ont tout.
Donc là, c'est les Beatles qui vont venir leur offrir un tube. C'est les Beatles qui leur offrent leur premier tube, ça s'appelle I Wanna Be Your Man.
Ah oui.
I Wanna Be Your Man, ouais. Que Paul McCartney et John Lennon vont venir écrire devant eux. C'est-à-dire que c'est l'humiliation absolue pour eux. Ils viennent les voir en concert et ils sont habillés, ils racontent avec un manteau noir en cuir parce qu'ils ont de l'argent alors que les autres ils en ont pas en face. Et leur manager leur dit écoute, il va voir John et Paul, puisqu'il était dans le management des Beatles. Il dit je suis dans la merde juste jusqu'au cou là, il me faut un tube, écrivez-leur quelque chose. Ils s'assoient devant eux, ils prennent une guitare, ils écrivent les couplets. Ils leur écrivent un tube comme ça. Ils leur ont écrit un tube devant eux, I Wanna Be Your Man, qui a été leur premier tube enregistré à la radio, voilà, en 63. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, lorsqu'on dit que les Beatles et les Stones étaient frères ennemis, c'était faux. Ils étaient très amis. Ils étaient très, très amis. Ils s'entraidaient. Ils se faisaient en sorte de jamais sortir leur disque au même moment. Et par contre, ils jouaient aux gentils Beatles et aux méchants Stones, voilà. Mais bref, donc très vite, Andrew Lou Goldman se dit on peut pas continuer comme ça avec des reprises. Il faut qu'ils écrivent comme les Beatles. Donc, il demande à Mick Jagger et à Keith Richards est-ce qu'ils écrivent un morceau. Mais ils disent qu'ils en ont rien à faire et qu'en plus ils ont pas envie. Donc, il fait quoi? Il les amène chez lui, c'est authentique. Il les enferme dans sa cuisine à clé. Et il leur dit, vous n'aurez à manger et à boire et vous sortirez d'ici que lorsque vous aurez écrit un morceau. Bon, eh ben ils vont en écrire un. Donc, je vais vous faire entendre la première composition de Jagger Richards, Astir Go By, ce qui n'est pas du tout un rock, mais une ballade. Écoutez ça.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by.
Ça va être repris après par Marianne Faithfull.
Ah oui, ça calme. Hein. Oui,
ouais,
ça c'est quelque chose.
Marianne Faithfull qui est la fiancée ensuite de Mick Jagger qui va reprendre ce morceau. Voilà, c'est ça la première composition des Rolling Stones. C'est pas du tout l'image qu'on en a. Mais immédiatement après, il y a le tube absolu, le tube qui va faire connaître le groupe partout dans le monde, qui va lui faire vendre des millions de disques. Et qui va le marquer à tout jamais sur un mode de vie. Et oui, ce morceau, tu peux mettre le début parce que
tout le monde le connaît.
Et oui, à la pédale fine.
Ça ne dit rien.
I can get no satisfaction.
Avec la parfaite stéréo, vous avez d'un côté la guitare statue.
Youhou! Ouais. Bon, tout le monde connaît ça, quoi.
Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment.
Cette chanson, juste, elle a été rêvée par. Keith Richards en pleine nuit, il a entendu le riff en faisant un rêve. Il s'est réveillé, il a enregistré sur un petit magnéto Philips à l'époque à cassette. Et puis il s'est rendormi, il a juste enregistré le riff, hein. rien d'autre. Hein. Et on entend les ronflements à la fin.
Il va se rendormir, voilà. C'est parti.
Donc à partir de ce morceau, bon, les Rolling Stones vont devenir mondialement connus, notamment... Et en Europe, et aux États-Unis, et en Australie. Bon, à cette époque-là, on fait carrière. D'abord, il faut aller aux États-Unis. Hein, c'est le marché américain. Ensuite, c'est l'Europe. Et ensuite, l'Australie. Et lorsqu'on est vraiment très, très bon, on va en Asie comme les Beatles. Quoi, bon. Mais eux, donc, ils vont fait vraiment là, se faire connaître aux États-Unis à partir de ce moment-là. En 65, ils vont commencer à vendre des millions de disques. Mais là, ils sont pris par la tourmente de l'époque à Londres, qui est l'époque psychédélique. Mmh. Voilà. C'est la tourmente de l'époque psychédélique où tous les groupes donc, travaillent là, sur des collages sonores en prenant des influences du classique, du jazz, des musiques du monde, etc. Les Rolling Stones aussi. Les Rolling Stones aussi vont en fait être pris par ça. On va vous faire entendre une magnifique chanson de 1966 qui s'appelle Ruby Tuesday. Dans cette chanson, vous allez voir les magnifiques arrangements, notamment de flûtes qui sont écrits par Brian Jones, qui était un musicien extraordinaire qui apprenait un instrument à l'espace de une heure en studio et qui trouvait un arrangement avec ça. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais composé, hein, puisque l'ensemble des compositions dans les Rolling Stones sont toutes signées Jagger Richards, mais lui a été un formidable arrangeur. Bonjour, ouais. Donc on vous fait entendre ça, mais c'est pour vous montrer l'époque aussi, à quel point la musique des Stones, qui était partie sur le blues, part sur autre chose. Ouais. Voilà.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone.
Il y a un violoncelle aussi, un piano. Tout est joué par Brian Jones. C'est lui qui fait tous les instruments.
Or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change?
Vous voyez, c'est vraiment très beau, mais c'est lié à cette époque des années 66-67 à Londres, où on est en plein boom du psychédélisme et tout le monde se met à ça, quoi. Tout le monde se met à ça, mais à un moment donné, les Rolling Stones perdent leur racine. En 67 en plus, ils sont pris dans des histoires de drogue incroyables, donc ils vont passer en jugement, ils vont avoir de la prison ferme qui va être déclarée contre eux, ils vont avoir un mal fou en fait en sortir, bref. Ces années-là vont vraiment très mal pour eux. Brian Jones, qui était le créateur du groupe, voyez, lui, il vire très mal à cause de la drogue. Il n'est plus là, quoi. Voilà, il décroche. Et donc, les Rolling Stones vont être obligés, j'allais dire, de s'en séparer. Ouais. Ils s'en séparent en juillet 1969. Et Brian Jones meurt 3 jours après, noyé dans sa piscine. On ne sait pas ce qui s'est passé.
On ne sait pas trop, mais bon.
Personne ne sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce qu'il était cardiaque? Il avait des problèmes respiratoires, d'asthme? Est-ce qu'il a fait une crise d'asthme? Personne ne saura jamais. Mais c'est un véritable drame dans le milieu du rock et de la jeunesse, parce que c'est la première rock star qui meurt. Elle meurt à 27 ans. Donc
ouais,
ça fait partie.
C'est un peu lui le qui a déclenché après l'histoire des 27
Exactement.
Ans.
Exactement. Enfin, ouais. C'est lui qui va déclencher le club des 27. Il va y avoir Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison,
Kurt Cobain.
Ils sont tous un certain nombre comme ça à 27 ans. Voilà. Mais voilà, ça va vouloir dire aux jeunes. Dans une époque qui est très joyeuse, voyez, qui est une époque de rêve, hippie, etc. Mais c'est un peu la fin du rêve, quoi. Bon. Mmh. Et le disque qui suit là cette mort, c'est donc Let It Bleed, qui signifie laisser saigner, quoi. C'est ça que ça signifie, c'est, grammaticalement, ou alors que le sang coule.
Cool, ouais.
Voilà, hein. Donc c'est pas, on est en 69, c'est encore l'époque hippie, hein. 69, il y a eu le festival de Woodstock en août 69. Bah, là, les Stones, vous voyez, ils sonnent la fin de la récréation, quoi, travers là ce disque. Ils sonnent la fin de la récréation, la fin du rêve, et ils vont revenir au blues. Ils vont revenir aux racines. Ce disque est un magnifique, immense disque de rock et de blues. Et on va commencer donc à vous le faire écouter. Alors, ce disque, il est enregistré sur un an, entre novembre 68 à novembre 69. Il reste pas un an en studio, hein. Mmh. Il rentre à de multiples reprises, il sort à de multiples reprises. Mais on va vous faire écouter le premier morceau qui s'appelle « Gimme Shelter », qui signifie « Offre-moi asile ». On est dans cette époque-là. Tu peux monter un peu le son. Mmh. On va commencer à en faire entendre notamment ces accords de guitare au début, là, ces arpèges de guitare de Keith Richards, moi qui me bouleverse à chaque fois. Et on vient de sortir de la mort de Martin Luther King, de la mort de Robert Kennedy. Les banlieues américaines flambent, les ghettos américains flambent. c'est encore un racisme effréné envers les Noirs, les droits civiques ne sont pas respectés, c'est la guerre au Vietnam. Et c'est toute cette chanson-là, c'est toute cette ambiance-là que veut faire apparaître Mick Jagger et qu'il fait apparaître magnifiquement. Enfin, quelle chanson de rock et de blues. Écoutez ça. Guerre, les enfants, ce n'est qu'à portée de tir. Ouais, il leur dit la guerre est à côté, quoi. Il dit ça aux hippies notamment. Murray Clayton à la voix, écoutez cette voix, inquiétante. L'amour, je te le dis, frangine, ce n'est distant que d'un baiser. Après avoir dit la guerre est là, l'amour est possible. C'est très très beau les paroles de Mick Jagger, hein, j'assure. Hein. Alors, enfin, j'espère qu'elle t'a plu, moi, cette chanson.
Eh ben, écoute, oui. Bon, oui, voilà, oui, elle m'a plu. Je la trouve très bien. Bon refrain. Enfin, ça envoie.
Ça envoie. Très bien. Moi, je suis un amoureux des Rolling Stones. Donc, il y a une autre amoureuse des Rolling Stones. Ah, oui. Elle s'appelle Patti Smith.
Et j'aime beaucoup Patti Smith.
Moi, il y a une citation de Patti Smith que j'adore. Elle a dit souvent, « J'ai souvent songé à me suicider, mais j'aurais raté le dernier disque des Rolling Stones. » Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les Rolling Stones, c'est ce qui lui a sauvé la vie plusieurs fois. Et elle a fait un disque de reprise qui s'appelle 12, et je crois qu'elle a fait ça en 2007, oui, voilà. Et elle a une reprise de Gimme Shelter. Je voulais vous faire écouter ça, parce que je dis toujours, les plus grands groupes, c'est les plus belles reprises. C'est lassif en plus, hein. Très très beau. Et la voix de Patti Smith, alors, c'est quelque chose. Hein. Beau, hein. Bruno, dis-moi que c'est beau. Ça.
Oui, 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 je confirme. Surtout avec Patty, alors là, c'est énorme.
Vous achetez le disque, allez acheter des disques, arrêtez de télécharger, allez acheter des disques. Ce disque s'appelle 12 de Patti Smith. Il y a que des reprises, il y a des reprises de Hendrix, des Beatles, c'est extraordinaire, des Doors, de Neil Young. Allez acheter ce disque. Donc la deuxième chanson du disque Let It Bleed s'appelle Love in Vain, l'amour en vain. C'est une chanson d'un grand bluesman qui s'appelle Robert Johnson. Ce bluesman a la réputation d'avoir donné son âme au diable contre l'apprentissage magnifique de la guitare. C'est-à-dire que c'était devenir un dieu de la guitare contre le fait de donner son âme au diable. Donc là, je vous fais entendre l'enregistrement initial de la chanson par Robert Johnson et vous allez voir ce qu'en font les Rolling Stones.
When the train rolled up to the station and I looked her in the eye, well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry, all my love's in vain. When the train, it left the station with two lights on behind. When the train and left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue and the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Oh, Willie Mae. Be your woe, all my love's in vain.